Merci beaucoup, Monsieur Jacob. C'était passionnant. Alors, je vais vous adresser quelques questions en commençant par une réaction vraiment d'amateur, vous allez voir, d'amateur au sens de personne peu instruite, pour vous demander de récupérer peut-être des distinctions que tout le monde connaît et qui paraîtront donc bien plus caricaturales que celles que vous avez employées, entre un droit à caractère jurisprudentiel du côté du common law et un droit codifié du côté de la tradition romano-canonique. Est-ce que je vous comprends bien en considérant que dès lors que la tradition du common law perpétue donc les anciennes formes de procédure, c'est-à-dire considère que le jury est là pour manifester une vérité considérée comme inhérente au rite, il en découle de manière quasi logique, mais peut-être que je suis vraiment trop sommaire en proposant cela, l'idée générale que pas seulement le jury mais la cour est là pour non seulement dire la vérité mais dire la loi aussi, et que dès lors le caractère jurisprudentiel en quelque sorte de la tradition du common law va de pair avec ce que vous avez dit, là où au contraire dans la procédure romano-canonique il apparaît comme logique, hein, au profane que je suis, dès lors que le juge est là pour qualifier, pour appliquer, etc., cela présuppose par définition un droit canonique. Voilà, ça c'est simplement voir jusqu'où on peut porter les distinctions très subtiles que vous faites pour les faire valoir aussi dans le cadre de distinctions très grossières, qui sont sans doute celles que, en tout cas, celles que j'ai, peut-être celles qu'une partie du public ici. Ça c'est une première chose, qui est un éclaircissement, si vous voulez. Ma deuxième question, je voudrais faire un retour, mais très général, dépourvu de toute solidité historique, vers ces procédures étranges que vous avez évoquées, en prenant l'ordre d'Ali comme étant la plus évidente d'entre elles, et que vous aviez toujours tendance à considérer comme étant des procédures qui, d'une manière ou d'une autre, hein, et c'est l'objet de votre questionnement, sont là pour dire la vérité, ou pour, sinon pour prouver celle-ci, du moins pour éprouver la possibilité qu'on a de dire la vérité. Et la question vraiment très générale que je veux vous poser part tout simplement du constat qu'il y a toujours eu, et il y a encore de nos jours, une multiplicité de manières de régler les différends entre les êtres humains, parmi lesquelles ceux que vous avez évoqués dans le cadre des ordres d'Ali, mais parmi lesquels aussi, par exemple, les duels, et qui, je crois, s'intègrent dans ces procédures étranges que vous évoquez, et parmi lesquelles aussi le tirage au sort, des choses comme ça, hein, qui sont constamment et encore de nos jours employés par les êtres humains, et qui ne s'embarrassent pas du tout, à mes yeux, de la question du dire vrai. Hein. C'est-à-dire que la question n'est pas, et c'est ça la force de ces procédures, de ces moyens de régler les conflits, l'enjeu n'est pas celui de savoir ce qui est vrai, que ce soit en cherchant les preuves de celui-ci ou en éprouvant la possibilité qu'on a de dire le vrai. Et ces procédures, hein, qui ne sont pas judiciaires, évidemment, hein, apparaissent comme pleinement légitimes pour une multiplicité de motifs. Hein, c'est rapide, c'est peu coûteux, ça peut être équitable si on choisit un duel entre des personnes d'un même gabarit physique, on va dire. Ça permet de prendre en considération l'honneur, ça permet de prendre en considération le courage, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut se justifier pleinement, auquel on assiste encore. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais très récemment, un écrivain belge, Gunzik, a géré, si je ne me trompe pas, une question de différend au niveau des droits d'auteur avec son éditeur Luc Pire, dans un combat de karaté. Je me trompe peut-être en parlant de karaté, mais enfin, en tout cas, il y a eu un duel, et on a là une forme, évidemment, efficace, pratique de gérer les différends. Mais si je veux souligner ceci, c'est pour souligner que ces formes-là sont à la fois parfaitement autonomes du judiciaire, évidemment, mais me semblent aussi trouver leur force, leur intérêt, hein, dans le fait qu'elles ne s'embarrassent pas de la question de la vérité. Et donc, en déposant justement ces modes de gestion-là sur la table, je voulais simplement savoir qu'est-ce qui fait que, à vos yeux, cette question de la vérité prend spécifiquement une importance, et pourquoi est-ce le propre peut-être justement de leur juridicisation dans le monde chrétien que d'avoir ajouté l'enjeu de la vérité à ces procédures qui pour le reste peuvent trouver, je vous le dis, leur efficacité parfaite dans le fait d'être étrangères justement à la question de la vérité. Voilà, ça c'est une question, vous voyez, entièrement déracinée de toute forme de contextualisation historique. Je vais essayer de faire en sorte que...
C'est central.
Je vais essayer de faire en sorte que la dernière question que je vais poser soit un tout petit peu plus historique. Et elle va de nouveau... J'avais peut-être mal anticipé votre propos. Je croyais qu'il allait être question de duel. J'aime bien les histoires de duel. Donc, je voudrais revenir sur le duel en partant du principe qu'il se situe globalement dans ces formes de gestion étrange de nos conflits. Et je voudrais me tourner vers un duel bien un peu particulier, qui, dans lequel la référence au jugement de Dieu a toujours subsisté, et qui est le duel, et qui est encore cours de nos jours, et qui est le duel entre des cités ou entre des États, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement une guerre, et qui est, à mes yeux, une forme de résolution juridique d'un différend entre des êtres humains, sans instance judiciaire, contrairement évidemment à tout ce que vous avez évoqué, mais néanmoins juridique, puisqu'il y a des formes à respecter, et puisqu'il y a des conséquences qui peuvent être tirées du duel en question, enfin des conséquences à caractère juridique. Alors, comme on le sait tous, d'Augustin jusqu'au droit des gens modernes, en passant par le décret gratien, par saint Thomas et des choses comme ça, on assiste à une rationalisation et une juridicisation, hein, qui va de pair en quelque sorte avec celle que vous avez décrite, des éléments religieux qui sont présents dans la question globale de la guerre et qui vont juridicisation, enfin une rationalisation puis juridicisation, qui va consister à définir toute une série de critères qui permettent de considérer qu'une guerre est légitime. C'est la fameuse théorie de la guerre, théorie de la guerre juste, hein, qui nous permet d'évaluer le caractère juste d'une guerre en prenant en considération d'une part la question de la cause, d'autre part la question de l'intention droite, et troisièmement la question de l'autorité légitime. Toutes des questions qui sont fortement empreintes d'éléments religieux et qui vont être petit à petit rationalisées, juridicisées, etc. On se doute bien que l'intention droite, puisqu'il s'agit de percer en quelque sorte le fort intérieur et l'âme des acteurs, ne peut pas manquer de se référer à un tribunal divin. De même, la question du critère de l'autorité légitime, qui apparaît très humaine, se renvoie évidemment typiquement à une autorité humaine, hein. Seuls les États ou seuls les princes peuvent déclarer la guerre, mais présuppose aussi toujours derrière le prince et l'autorité de Dieu, hein, puisque le prince lui-même n'est redevable que devant Dieu. Alors, on a là un mouvement très classique, parallèle à celui que vous décrivez, de juridicisation des éléments théologiques présents dans le champ de la guerre, qui... comme bien classiquement, évidemment, à la fois nous éloigne du théologique et ne cesse jamais de confirmer la présence de ce caractère théologique. Ce que je voulais simplement noter dans ce champ-là, c'est que insiste parallèlement à cela, enfin, reste présent dans le questionnement sur la guerre, un discours qui continue de vouloir attribuer la décision du sort de la guerre, c'est-à-dire la décision du qui est vainqueur, à Dieu. Et là, il me semble qu'on est globalement dans le cadre d'un jugement de Dieu. Si on prend par exemple, c'est étrange évidemment de se tourner vers lui, si on prend quelqu'un comme Érasme, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui n'apparaît pas comme étant premièrement un théologien et deuxièmement qui apparaît comme un grand ennemi de la question de la guerre, hein, on a toujours l'idée d'un Érasme très pacifiste, dans le petit texte qu'il a écrit sur la question de savoir s'il était légitime de mener la guerre contre les Turcs, il explique que pour qu'une guerre soit légitime, il faut rencontrer évidemment les critères que j'ai déjà cités, autorité légitime, cause juste, intention droite, même un peu de proportionnalité, et même encore et même un peu d'ultime recours. Donc on est déjà face à quelque chose d'assez solide et charpenté sur le sens, dans son caractère juridique au sens où nous l'entendons dans les théories modernes de la guerre. Mais pourtant, il maintient, et avec extrêmement de force, l'idée selon laquelle une guerre ne peut être légitime que si elle est menée avec la conscience que c'est Dieu seul qui décide du sort de la guerre, c'est-à-dire de la sortie de la guerre. Hein, donc on est typiquement encore dans l'idée que cette forme un peu particulière, évidemment, de gestion des différends qu'est la guerre, est un jugement de Dieu, si je ne me trompe pas. Hein, c'est un jugement de Dieu, c'est Dieu et Dieu seul. Enfin, une guerre n'est légitime que si Dieu décide de sa sortie. Que si nous combattons en étant conscients que Dieu seul est celui qui peut décider de la sortie de la guerre. Il me semble qu'il y a là une référence indéniable à certains épisodes bibliques du style le fait que le roi David avait été puni pour avoir recensé le peuple d'Israël en pensant que sur la base d'un recensement du peuple d'Israël, il allait pouvoir savoir s'il gagnait la guerre ou pas. David est puni par Dieu parce que justement, il croit que ce sont des considérations humaines, des considérations rationnelles en quelque sorte, qui permettent de décider du sort de la guerre, et Dieu est là tout simplement pour lui rappeler que c'est lui et lui seul, évidemment, qui décide d'une chose aussi grave que la guerre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, on se trouve face à un jugement de Dieu, comme je l'ai dit, me semble-t-il, mais dans lequel la référence à Dieu n'a de nouveau rien à voir avec la question du vrai. Hein, elle est forte, tout à fait étrangère à la question du vrai. La question, évidemment, n'est pas de savoir qui a raison. Hein, ce n'est pas une question de vérité. C'est bien plutôt une question de volonté ou de décision quant à la sortie de la guerre. Hein, c'est-à-dire, Dieu est présent là, non pas comme celui qui sait tout, mais comme le maître de la providence, qui n'est pas tout à fait celui dont le dessein est par définition caché. Alors vous avez bien dit évidemment que la justice divine est indisponible, mais du coup il me semble qu'on s'éloigne radicalement dans ce sens-là de la question du vrai pour la question globalement que j'appellerais être celle de la providence, hein, à laquelle s'ajoute le fait que l'usage de la force, hein, la confrontation armée, des choses aussi graves que celles-là, ne peuvent pas globalement, la décision sur la sortie de celle-ci ne peuvent pas être le fruit d'une décision humaine, mais doivent être le fruit d'une décision divine. Donc toujours là, il me semble qu'on a des éléments théologiques comme ceux auxquels vous avez fait appel, on a un jugement de Dieu, on a une juridicisation, mais on a une absence totale de la problématique de la vérité, qui apparaît comme fondamentalement secondaire, me semble-t-il, là où je crois que la grande force de votre travail, que je ne veux surtout pas contredire ici, évidemment, hein, j'ajoute des choses à la table, la grande force de votre travail, c'est justement d'amener la question de la vérité dans un espace qui n'est pas celui où on l'attendait, en quelque sorte. Et je conclurai sur ça. Je dirais que, plus globalement, et toujours en basant sur l'expérience du discours sur la guerre et les codifications qui ont résulté de la pensée chrétienne de la question de la guerre, ce qui apparaît, c'est que l'objet du questionnement chrétien sur la guerre, sur l'usage de la violence, sur l'usage de la force, etc., est extrêmement spécifique et ne m'a pas semblé présent du tout dans votre intervention. C'est tout simplement le fait aussi que la violence, mais aussi plus globalement peut-être la contrainte sur autrui, la violence est un péché. Ce qui occupe Saint-Augustin et ce qui occupe encore typiquement Saint-Thomas ces 8 siècles après, c'est non pas la question de qui a raison dans le cadre d'une guerre, hein, qui a un juste droit sur une chose, c'est tout simplement la question de savoir s'il est légitime ou s'il n'est pas légitime pour un chrétien de commettre la violence. Hein, sachant que l'Évangile semble interdire toute forme de violence et considérer comme un péché toute forme de violence. C'est-à-dire que la question qui nous est adressée par la tradition à laquelle je me réfère, et qui est différente de la vôtre évidemment, c'est tout simplement celle de savoir dans quelle mesure l'usage de la violence, l'usage de la force, peut-être même l'usage de la contrainte, est un péché ou pas. Et les trois critères que je signalais tout à l'heure, à quoi servent-ils ? Ils servent tout simplement à écarter la thèse du péché. Hein, il est possible de commettre un homicide sans être sont censés être responsables de l'homicide en question, hein, puisqu'ils permettent aux chrétiens de tenir, comme le disent les théologiens de l'époque et les juristes de l'époque, de tenir un glaive que Dieu lui a tendu. Hein. Je veux dire, on n'est pas responsable de la violence qui est commise. Alors ce type de questionnement que j'évoque ici à propos de la guerre, on le trouve dans le cadre d'autres questionnements sur le tyrannicide avec Jean de Salisbury, etc. Il s'agit toujours de se demander dans quelle mesure une violence ou une contrainte peut être exercée sur autrui, et de veiller à ce que la responsabilité du chrétien ne soit pas engagée dans le cadre de cette action. Alors, si je fais tous ces détours, c'est de nouveau pour laisser entendre, et là vraiment je vais m'arrêter parce que je deviens très bavard, que tout ce questionnement m'a l'air fondamentalement étranger à la question du dire vrai. Hein, la question de la vérité, de nouveau, hein, comme avec mon duel entre Munzik et Luc Pire, n'apparaît pas. La question est de savoir, bien plutôt dans le cadre de théorie de la guerre juste, qui peut commettre des actes de violence? Le chrétien peut-il commettre des actes de violence? Qui peut sanctionner? Qui peut agir de manière contraignante sur autrui? C'est-à-dire que la question est bien plus une question que j'appellerais globalement de ministère qu'une question de vérité. Vous voyez? C'est la question de qui? Peut-on agir? Et spontanément, et je conclurai ainsi, de nouveau, sur la base de la maigre connaissance de l'histoire du droit et de l'histoire de l'histoire de plus globalement des dispositifs normatifs à la période médiévale, j'aurais tendance, un peu à la suite de Foucault, évidemment, à aller chercher les origines de la question du dire vrai, hein, et l'importance de la question de la vérité et de sa formalisation dans des dispositifs non judiciaires, dans des dispositifs normatif, chrétien, mais non judiciaire, du type du mécanisme de la confession, par exemple. De la confession, par exemple, hein, qui typiquement poursuit cette idée d'une vérité. Voilà, tout ceci n'apparaissant pas du tout, évidemment, comme une critique du fait que vous ayez mis l'accent sur cette question de la vérité dans ce monde judiciaire, mais comme une surprise en évoquant d'autres sources. Voilà.
Ben merci beaucoup. Ben alors voilà beaucoup de réactions et bon de nombreux sujets de réflexion. Alors je vais peut-être reprendre les questions mais en sens inverse, donc en commençant par la guerre. Dans la perspective providentialiste des événements, la guerre est toujours une forme de jugement de Dieu. Hein, donc, de fait, on peut opposer Tite Live, par exemple, qui se demande pourquoi les Romains gagnent parfois et pourquoi ils perdent parfois, alors, est-ce qu'ils ont offensé les dieux, est-ce que, etc. Mais les dieux de Tite Live ne sont pas des dieux de justice. Hein, alors que Plutarque, lui, écrit tout un traité pour se dire, mais comment se fait-il que... alors, je t'ai dit Plutarque. Quand j'analyse l'histoire, dit Plutarque, les bons finissent toujours par l'emporter, mais pas tout de suite. Donc la question est de savoir pourquoi Dieu tarde parfois à appuyer les bons dans leur conflit contre les méchants. Et puis on a des historiens tout à fait chrétiens comme Grégoire de Tours qui adoptent une logique absolument providentialiste de l'histoire. Donc Arius, l'hérésiarque, est mort de manière ignominieuse, bien sûr il est frappé par Dieu. Les Francs l'emportent sur les Burgondes. Ben pourquoi? Parce que les Francs sont catholiques, tandis que les Burgondes sont ariens, etc. etc. Donc, une lecture providentialiste de la guerre est une lecture qui, à mon sens, n'a jamais cessé, et qu'on retrouve encore, d'ailleurs, dans le discours américain sur les guerres récentes. Donc, l'intervention en Afghanistan en 2001 s'appelait, le nom de code de l'opération, c'était au début Absolute Justice, hein, justice absolue. Et ce nom a finalement été retiré en raison de l'objection des théologiens. Mais l'idée est que Dieu doit être de notre côté, c'est-à-dire du côté des bons. Enfin, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que... écartons peut-être l'idée de vérité, vous avez raison, écartons l'idée de vérité, mais en tout cas, le monde est un conflit entre les bons et les méchants, et l'idée que la résolution du conflit par la guerre est commandée par Dieu et finit par donner la victoire aux bons est effectivement une idée qui n'a jamais vraiment disparu. Hein.
mais qui peut être transposé. La puissance romaine, dans une lecture providentialiste, ne résulte pas du fait que les Romains sont bons, mais du fait que, que cinq siècles après...
Justement, chez les Romains, on n'en était pas sûr. En tout cas, quand on relit les historiens romains, ils n'étaient pas sûrs qu'ils gagnaient parce qu'ils étaient les meilleurs. Quoique tout de même, ils finissaient par dire, nous sommes plus vertueux, ou nous avons adopté telle ou telle règle, nous sommes plus disciplinés sur le plan des combats, nous diffusons plus largement notre citoyenneté que les Grecs qui perdent toute leur guerre parce qu'ils sont beaucoup trop malthusiens. Bon, il y a toute une série d'explications où les dieux interviennent, mais où n'intervient pas encore, c'est caractéristique du schéma livien de l'histoire, où n'intervient pas encore un dieu de justice. Hein. Alors, chez Plutarque, qui se dessine, et puis alors, chez les historiens chrétiens, il est évident, et il se prolonge, et il ne quitte jamais vraiment l'horizon de la pensée chrétienne du conflit guerrier. C'est-à-dire, je crois que ce n'est pas... Cette question-là, la question de la violence légitime, sont des questions très intéressantes, mais qui ne sont pas exactement la question de l'ordalie. Parce que la question de l'ordalie, c'est la question de savoir si on peut demander à Dieu, dans des circonstances tout à fait prédéterminées, non pas dans une lutte contre un ennemi qui après tout pourrait bien gagner, si dans des circonstances prédéterminées d'un litige qu'on a choisi de résoudre autrement que par les armes, si on peut lui demander un signe de sa justice. Et ça, je crois que cette question-là est effectivement étrangère à la question de la guerre. Maintenant, je reprends votre seconde question qui est vraiment centrale. Est-ce que ces pratiques de résolution du litige par des épreuves a bien à voir avec la vérité, ou est-ce que la vérité est nécessaire à la pensée qui met en œuvre ces épreuves? Et là, je crois que vous avez tout à fait raison de répondre par la négative. Ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable du tout. Alors, ce n'est pas indispensable du tout dans le choix, effectivement, de régler un litige par tirage au sort. On est pas, remarquez, il est possible qu'on pense que c'est Dieu qui décide. Hein. Alors, on le dit pour les germano-scandinaves, ils croyaient en la divinité des sorts. Hein. Les chrétiens l'excluent absolument. Les sorts sont diaboliques. Hein. Tirer les sorts, toute divination vient du diable. Il ne peut pas venir de Dieu parce que les desseins de la providence sont impénétrables. Hein. Bon. S'agissant du duel, de mille formes de duel, d'ailleurs, violent ou du reste non violent, vous avez tout à fait raison. Et je dirais même que vous avez aussi tout à fait raison d'un certain nombre d'ordalies, et peut-être même de toutes les ordalies. On peut parfaitement faire fonctionner une ordalie sans penser à la vérité, ou en ayant la conviction que une des fonctions essentielles de l'ordalie, du serment, n'est pas d'établir une vérité judiciaire. Je crois que la fonction essentielle qui explique le succès du mécanisme dans différentes cultures, c'est la destruction de la prétention contraire. Il faut arriver à détruire rituellement la prétention contraire. C'est-à-dire que c'est un démenti, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas l'affirmation d'une vérité positive. Et même dire « je suis innocent », c'est dire littéralement « je n'ai pas nui », hein, « innocere », c'est-à-dire dans l'affirmation d'innocence, il y a moins une affirmation qu'un démenti. Bien. Cela étant, après avoir longuement soutenu l'idée et longtemps soutenu l'idée que, au fond, la vérité n'était pas au cœur de l'ordalie et n'était pas au cœur de l'épreuve judiciaire, je dois bien constater une chose, toutes les langues ont un mot pour dire vérité, hein, et elles projettent ce mot sur la vérité judiciaire, c'est-à-dire que l'État qui se produit après l'exécution de l'épreuve, réussie ou manquée, est un état reconnu comme vrai. Seulement, et là je crois que la question... c'est une question qui a été posée tout de même par Clifford Geertz, par exemple, et à mon avis très bien, hein, dans Savoir global, savoir local. Et il pose cette question à propos des rituels judiciaires, à propos des serments judiciaires, et il pose cette question à propos de toute une série de langues, y compris les langues des régions qu'il connaît bien, c'est-à-dire de l'Asie du Sud-Est. Et il dit, la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est antérieur au rituel, et que le rituel manifesterait, ça c'est l'erreur commise par la plupart des historiens du droit qui ont approché le problème. La vérité, c'est ce qui est produit par le rituel lui-même. Hein. C'est l'état de conflit enterré. Hein. C'est ça le but. Hein. Il y a d'ailleurs certains rituels qui sont... j'aime beaucoup les rituels caucasiens parce qu'il y a des rituels de malédiction réciproque. Hein. Chacun dit si c'est moi qui ai raison que tu périsses, et l'autre répond la même chose, si c'est moi qui ai raison que tu périsses. Donc en fait, il n'y a aucune vérité judiciaire. Il y a deux affirmations contradictoires. Et après, on verra bien. Hein, la vérité judiciaire se manifestera. Mais le conflit est enfoui. Hein. Et dans d'autres rituels, les caucasiens, les géorgiens, par exemple, plonge une pierre dans une fosse, dans la terre. La pierre, c'est le conflit qu'on a enterré. La vérité en grec, alors je suis le raisonnement, ça se dit aletheia, tout le monde le sait, c'est ce qui ne s'oublie pas, mais justement, c'est ce qui ne s'oublie pas quand on a choisi d'oublier tout le reste. Hein. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mots qui désignent la vérité, et alors on peut faire le même raisonnement pour le latin verus, etc., à l'origine, tous les mots qui désignent la vérité ne renvoient pas en fait à une vérité factuelle. C'est nous qui avons en tête cette vérité, cette idée comme si elle était élémentaire. Quand je dis vérité, je pense, est-ce qu'il est vrai que ou faux que l'eau gèle à en dessous de 0 degré centigrade, ou est-ce qu'il est vrai ou faux qu'un tel jour à telle heure a fracturé la vitrine d'une bijouterie pour y dérober des montres, hein. C'est nous qui référons intuitivement une vérité factuelle, mais dans l'histoire de l'humanité je crois que c'est un épisode très récent, hein. C'est-à-dire qu'on commence à raisonner comme ça, effectivement au moment où saint Thomas dit oui, je vais quand même accueillir une partie des théories de saint Anselme, mais je vais dire tout de même la vérité, c'est la correspondance entre ma représentation du monde et le monde tel qu'il est. Il y a là quelque chose qui change au milieu du Moyen-Âge. Et vous avez tout à fait raison de dire que ce qui change au milieu du Moyen-Âge, c'est une obsession de la vérité qui ne peut pas être purement juridique, là je vous suis tout à fait. Et c'est l'intérêt évidemment de travailler avec des historiens de la philosophie ou d'ailleurs de la théologie. Je n'ai pu construire le modèle que je viens de développer ici qu'après avoir lu Irène Rosé-Katak, évidemment, c'est-à-dire après avoir lu son long parcours des théologiens et de la réflexion des théologiens sur la vérité. Donc, question, pourquoi sont-ils soudain obsédés par l'idée de la vérité? Pourquoi est-ce que ça devient soudain un impératif pour eux de s'exprimer et de se faire une théorie de ce qu'est la vérité, et qui les conduira d'ailleurs à sortir des cadres qui étaient leur cadre de départ? Ben ça, je ne crois pas que ce soit une question que l'historien du droit puisse seul résoudre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, sur la question de la confession, alors là, il y aurait tout un débat à avoir, parce que la question de la confession n'est absolument pas étrangère. La confession sacramentelle n'est absolument pas étrangère à la vérité judiciaire. Je dirais même que, et ça c'est une des objections que je ferais à Foucault, que je me suis faite en lisant Foucault, parce que évidemment j'ai lu Foucault quand il a été publié, c'est-à-dire à la fin de 2012, donc à un moment où mon bouquin était pratiquement déjà écrit, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, le jugement de Dieu est absent de la réflexion de Foucault sur la vérité. Et je crois qu'il n'a pas aperçu ce phénomène qui a été massif dans l'Occident médiéval, cette idée qu'à un moment donné, on peut résoudre un litige en demandant à Dieu de le faire. Et alors, la confession, la confession est présente dans tous les rituels d'Ordalie, hein, et elle les présente un peu dans les mêmes termes que le miracle. Hein, le miracle, c'est le fait que la main ne va pas être brûlée. Bon, on implore, qu'est-ce que c'est qu'un rituel d'Ordalie? C'est un rituel dans lequel on implore la mansuétude divine. Mais on l'implore deux fois. On l'implore une fois pour manifester la vérité, hein, parce que ça ne peut être qu'un effet de sa bonté que de dénier justement ce que récusent les musulmans, les juifs, etc. C'est un effet de la mansuétude divine d'aider les hommes à trancher leur litige en manifestant sa vérité, mais on implore aussi sa pitié, sa mansuétude, en faveur de celui qui se déclarait coupable. Mais qu'on incite à se confesser, il y a une pression pour la confession, Il y a une pression en faveur de la confession qui est une autre forme de sollicitation de la mansuétude divine. Et il y a dans le rituel d'Ordalie, chose qui a été peu vue et qui est fort importante, une confusion quasiment parfaite de la confession sacramentelle et de l'aveu judiciaire. Et précisément à l'arrière-plan des phénomènes que j'étudie ici, hein, c'est-à-dire séparation de la common law et de la procédure romano-canonique, à l'arrière-plan, il y a également la séparation absolue de la confession sacramentelle et de l'aveu judiciaire. Et alors, de nouveau, Foucault est sur une pente qui est suivie par certains pénalistes et par pas mal d'historiens des religions. Il y a une sorte d'engouement pour l'aveu qui saisit l'Église au XIIe et au XIIIe siècle et qui va déboucher, nous le savons, sur l'aveu pénal comme reine des preuves, hein, et sur l'emploi de la torture pour extorquer l'aveu. Bon, sauf que cet engouement ne peut être compris que si on saisit aussi que l'Église met en place à ce moment-là deux formes d'aveu qu'elle pose comme absolument irréductibles l'un à l'autre et absolument étanches, hein, puisque la vérité acquise en confession, qui est une vérité destinée à Dieu, là on est vraiment dans le niveau inférieur de la vérité indicible, parce que là on sollicite vraiment l'omniscience divine et la mansuétude divine à travers l'oreille du confesseur, hein, la confession auriculaire, hein, cette confession destinée à Dieu est absolument inutilisable en justice, il est interdit d'exploiter les éléments acquis en confession. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi, voilà, ce serait l'objet d'autres débats et d'autres recherches, mais cette idée que le juge est limité dans la recherche des preuves, donc l'inquisiteur, le modèle inquisitorial que l'Église va mettre en place à ce moment-là, a en réalité des limites, et qu'on ne peut pas vraiment tout savoir, est tout à fait lié au fait que, dans la conception ecclésiastique, le sacrement, soudain, brutalement, et ça s'est fait en une dizaine d'années, hein, 1190, 1215 pratiquement, 25 ans, brutalement, le sacrement fonctionne non pas comme un révélateur de la vérité judiciaire, mais comme un obstacle mis devant le juge dans la recherche de la vérité judiciaire.